Histoire d'archives avec Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous allez parler de l'actualité, car il y a beaucoup de choses à écouter.
Oui, en effet. Donc on est en septembre, on reprend donc notre année. On est un petit peu sur le rythme des années scolaires, hein, puisqu'on a... On a un public qui est de plus en plus scolaire. On a atteint l'année dernière plus de 2300 élèves et cette année, on va largement dépasser cet effectif. Donc on a effectivement inauguré une exposition la semaine dernière, donc vendredi, dans le cadre des Journées du patrimoine, ce qu'on fait chaque année, hein, donc, puisque on était dans le cycle 1914-1918 dans le centenaire, donc chaque année on inaugurait une exposition. On avait inauguré une exposition sur 1917-1918, et donc cette année on est sorti de ce cadre-là, puisqu'on propose au public de venir voir des images de différents lieux des Alpes de Haute-Provence, en comparant en fait des images anciennes et des images contemporaines, prises donc selon un procédé photographique que j'expliciterai tout à l'heure.
Et qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté pour cette dernière année de guerre?
Alors cette année de guerre, alors j'en parlerai aussi, hein, puisque nous avons publié un ouvrage, qui est un peu un ouvrage de synthèse, qui a été lui aussi présenté la semaine dernière, donc vendredi, à l'issue de l'inauguration de l'exposition. Le but étant en fait effectivement de mettre un point final à notre projet, hein, qui avait commencé en réalité bien avant 2014, puisqu'il fallait le préparer. Hein, nous étions dans le cadre du comité du centenaire, hein, donc on avait reçu le label pour notre projet en 2013, si mes souvenirs sont bons, avec un projet qui avait été en fait construit à partir de 2010-2011. Vous voyez, donc pour nous, c'est vraiment la fin d'un cycle qui a duré quasiment depuis mon arrivée aux archives départementales en 2010. Et puis, donc cet ouvrage qui est assez volumineux et surtout abondamment illustré, eh bien, donc, propose une synthèse de tout ce qui a été fait. Alors c'est un peu un ouvrage, on va dire... Vous savez, c'est l'ouvrage qu'on ne souhaite pas écrire, mais qu'on désire écrire, en fait. Hein, c'est-à-dire que... c'est un peu compliqué, je vais expliciter tout ça. En fait, quand on est parti sur le projet 1914-1918, on avait l'intention de publier un ouvrage chaque année, hein, sur un sujet donné, par exemple, les étrangers dans le département, donc les réfugiés, les femmes et les enfants, la guerre, etc.
Les pupilles,
etc. Voilà, on était parti sur ce projet. Et puis finalement, donc, quand on inaugure notre premier cycle en 2014, notre première exposition en septembre 2014, en août exactement 2014, on avait pris la chronologie de la guerre, hein, en août 2014 sur le sujet, on ne propose pas de publication, puisque dans le projet, c'est la publication, elle sort en 2015, à la fin de la première année, hein, sur un des thèmes qu'on avait choisi. Et puis finalement, l'hiver est une période propice à l'écriture, c'est très, très paradoxal. Donc l'hiver venant, le mois de décembre, décembre-janvier, je me disais que c'était quand même dommage de ne pas avoir une trace écrite, hein, de notre exposition. Le problème des expositions, c'est que c'est évidemment fort intéressant à faire, c'est fort intéressant pour le public qui vient les voir, mais il n'y a rien derrière si on ne fait pas une trace écrite. Et donc, on avait donc décidé de faire un petit journal. Et donc, en 2015, en fait, on a publié deux petits journaux, celui pour l'année 2014-2015 et puis celui pour l'exposition 2015-2016, en même temps que l'inauguration de l'exposition. Donc, on était parti dans ce cycle-là. Et puis, au fond, je me disais, les petits journaux suffisent à eux-mêmes. Pourquoi faire autre chose que ces petits journaux? Donc, on a fait quatre petits journaux. Et puis, quand le dernier a été fait donc pour le cycle 1917-1918, au fond, je me disais, c'est terminé. Pourquoi vouloir écrire autre chose que ce qui a été fait? Et puis, l'hiver venant, donc toujours, comme je répète, propice à l'écriture, je me suis dit qu'au fond, c'était dommage parce que, entre ce qu'on avait élaboré en fait en 2014, 2015, 2016, 2017 et ce qu'on avait comme archives, évidemment les choses avaient changé. C'est-à-dire qu'évidemment quand vous écrivez en 2013 en 2014 pour 2014-2015, vous faites avec les archives dont vous disposez. Sauf que au fur et à mesure du temps qui passait, les personnes, hein, nous amenaient des archives privées. Et j'ai trouvé dommage de ne pas pouvoir les utiliser.
Donc, ça alimentait votre...
Eh oui, ça alimentait. Alors, évidemment, quand quelque chose arrivait un peu avant, on pouvait l'utiliser, mais le problème, c'est que souvent, ça arrivait après. Et puis, on continuait à chercher dans les archives publiques, hein, évidemment, des informations relatives à la guerre, tout simplement dans le cadre des activités pédagogiques, hein, puisqu'on a fait plus de 70 ateliers pédagogiques pour les enfants, aussi dans le cadre de la publication de ce qu'on appelle les archiclasses, hein, qui sont des documents à titre document pédagogique, donc destiné aux enseignants. On en a publié 9, oui, etc. Donc moi-même, de mon côté, je cherchais. Donc ces archiclasses et ces ateliers sont organisés, hein, par le service, par les agents du service éducatif, hein, et d'action culturelle. Donc chacun de son côté, on trouvait des informations. On continuait un petit peu à creuser. Et donc on avait une masse d'informations considérable qu'on n'avait pas utilisée pour les petits journaux. Donc effectivement, je me suis dit, c'est dommage. Puis en même temps, je me suis dit, ça va être un livre facile à écrire, puisqu'il y a déjà les petits journaux. Donc en fait, en gros, il suffit de prendre les 4 petits journaux et de les mettre ensemble, et hop, le tour est joué. Sauf que, évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'en fait, les petits journaux, souvent...
Heureusement.
Oui, heureusement. Oui, ce n'est pas si c'était juste des copier-coller, ça ne serait pas très intéressant. En fait, les petits journaux, en fait, sont très redondants. En réalité, les thématiques, on les suivait tout au long des 4 ans, et donc on retrouvait, des choses qu'on ne pouvait pas utiliser 2 fois, 3 fois dans un livre. Oui, donc, en réalité, quand je regarde le compte, le livre fait, je crois, autour de 750 000 caractères. Hein, donc, quand on prend les petits journaux, en fait, au total, on avait à peine 200 000 caractères avec beaucoup de redondance. Vous voyez, donc, en réalité, il a fallu beaucoup écrire, en fait. Donc, en fait, beaucoup couper nos petits journaux. Parce qu'au départ, je faisais des copier-coller. Je copiais, je me disais, tiens, ça va bien. Et puis, en fait, je me suis aperçu que ça n'allait pas du tout. C'était tout à fait impossible et qu'il fallait vraiment rédiger complètement un ouvrage, quoi. Alors, évidemment, il y avait la base, hein, qui était comme toutes les recherches qu'on avait faites, toutes les études qui avaient permis, justement, d'élaborer et les petits journaux et les expositions, parce que les petits journaux, c'est une version très réduite de l'exposition. En fait, tout ce qui est dans l'exposition n'est pas dans le petit journal. Donc, on avait beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, l'idée, bah, c'était de tout réécrire, hein, de tout recommencer, et donc de proposer cet ouvrage en cherchant à l'illustrer le plus possible, puisque on est quand même, c'est un livre d'archiviste, hein, ce n'est pas un livre d'historien. Hein, donc il y a beaucoup d'images, il y en a, je crois, plus de 150 illustrations dans les 280 et quelques pages, je crois, que fait l'ouvrage. Donc on a vraiment fait ça. Et il y avait aussi un pari, une gageure, c'était d'utiliser au moins une pièce de chaque fonds qui avait été amené par les personnes privées. On a eu plus de 90 dons, dépôts ou prêts d'archives, hein, qu'on avait numérisés. Certaines fois, d'ailleurs, ça représentait des quantités considérables. Hein. Il y a des prêts qui ont induit autour de 3-4 000 numérisations à eux seuls. Oui. Donc on avait beaucoup d'informations et l'idée, c'était au moins de prendre un document pour un peu remercier, c'est une forme, hein, d'hommage et de remerciement à toutes les personnes qui avaient mis des archives.
Et c'est alors ces 286 pages, est-ce que vous avez inclus des questions qui ont pu vous être posées lors des
alors évidemment, bien sûr, évidemment. C'était aussi une façon, effectivement, de répondre à toutes les interrogations des uns et des autres. Vous avez raison. Hein. Donc, en fait, c'est une exposition, c'est une matière vivante. Hein. En réalité, les personnes viennent. Alors, il y a ceux qui viennent simplement regarder, et puis il y a ceux qui, effectivement, s'interrogent sur les questions. Puis, vous savez, quand vous faites des conférences, les personnes vous posent des questions. Et donc, ouvrent des perspectives que vous n'aviez pas envisagées. Vous voyez, en l'occurrence... L'un des paris aussi de cet ouvrage, c'était de ne pas faire les combattants basalpins uniquement, mais de ne pas se cantonner simplement à la guerre. Hein, la guerre elle-même n'est pas très intéressante. Enfin, on la connaît. Vous voyez, elle est connue depuis longtemps par les livres d'histoire. Les faits eux-mêmes sont très largement diffusés, donc ce n'était pas tellement le sujet. Ce qui était plus intéressant dans la guerre, c'était quand même d'aborder la question, évidemment, de la souffrance, hein, de la mort, c'est ce qu'on a fait dans cet ouvrage, et puis surtout les relations entre l'avant et l'arrière. Et donc de ne pas négliger l'arrière. En fait, dans cette guerre qui est une guerre totale, d'une certaine manière, hein, qui est une guerre qui mobilise hein, aussi bien l'avant que l'arrière, hein, c'est dans le cadre de l'Union, ce qu'on appelait l'Union sacrée. C'était ça aussi un des paris, c'était vraiment de ne pas se limiter. Alors le problème, c'est qu'on connaît beaucoup de choses sur la guerre, on a beaucoup d'informations, hein, on a les lettres des poilus, etc., et puis beaucoup d'autres informations. On a très peu de choses dans le département sur l'arrière, dans les archives publiques, hormis Hein, donc tous les prêts qui nous avaient été faits, qui nous ont permis justement de travailler sur ce sujet. Pour vous dire, en fait, quand on a fait donc, ce qu'on appelait, ce que les Archives de France ont lancé, ce qu'ils s'appelaient la grande collecte, qui était en 2013 l'idée que chaque personne amène des archives privées concernant la guerre dans un service, en général d'archives, pour que ces documents soient donnés, soient prêtés pour numérisation. À l'origine, moi, je n'étais pas très favorable à ce projet. J'en voyais pas trop l'intérêt. Je me disais que ça va nous compliquer les choses. Et j'étais même assez réticent. Et puis finalement, on m'a convaincu que ça allait être utile. Et je ne regrette pas d'y avoir participé parce qu'effectivement, c'est grâce en fait à tous ces documents, toutes ces pièces qui ont été apportées ont permis justement d'alimenter à la fois nos expositions, nos petits journaux, mais aussi donc ce livre que vous retrouvez là. La couverture hein, qui est une image de Barcelonnette, de la mobilisation, je pense que ce sont les soldats du 157e régiment d'infanterie. Hein, donc vous avez en fait à la fois les civils, hein, puisque c'est une cantine improvisée chez un particulier, donc on a trois civils, et des soldats, hein, quatre soldats, qui sont enfin en train de déjeuner, en fait, tout simplement, hein, avant de monter donc sur le lieu de leur mobilisation. Voilà, c'est une image qui n'appartient pas aux archives publiques, en fait. Hein, c'est une image qui appartient au fond, qui sont détenus par le musée de la Vallée, donc à Barcelonnette, hein, qui vient, en fait, d'un prêt hein, de particulier. Voilà, c'est pour vous dire vraiment l'importance dans dans notre projet. Et dans cette publication qui en est, je disais tout à l'heure, un point ultime, l'importance donc de la participation des personnes privées. C'est-à-dire que si elles n'avaient pas été là, ça aurait été impossible. On n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait. On aurait fait quelque chose d'assez banal, une histoire militaire sans grand intérêt. Et c'est grâce finalement à ces archives qu'on a pu réaliser tout ce projet. Donc c'est vraiment, je le dis à votre micro, hein, vraiment, je remercie hein, tous ceux et toutes celles qui ont apporté des archives. Alors c'était soit des lettres, hein, des correspondances, des cartes postales, etc. Mais aussi, voilà, on a une très belle photo là aussi, qui vient du même fond, hein, donc avec un enfant qui accompagne des soldats qui dirige une colonne de prisonniers vers Barcelonnette. Hein, donc voilà, donc si on n'avait pas eu ces documents, je disais des documents écrits, mais aussi un nombre incalculable de photographies et de plaques de verre photographiques. Ce sont des milliers de plaques hein, qu'on nous a données ou prêtées ou mis en dépôt. Eh bien, on n'aurait pas pu faire ça. Mais on continue d'accueillir toujours ces documents. Hein. C'est-à-dire que si, effectivement, hier encore, une personne m'a amené de très belles photographies, donc des tirages photographiques hein, sur papier, d'un soldat d'un régiment de chasseurs, enfin d'un bataillon de chasseurs, pardon, qui est passé dans le département, qui a fait des photographies en Dubaï, mais qui a aussi ensuite été sur la côte, puisqu'il a été convalescent, hein, et il a été blessé. Voilà, donc oui, ça continue. Ça a commencé, oui, par un petit, par un rue, et ça devient une rivière, et ça fait un fleuve à la fin, voilà. Donc c'est vraiment très important. Et puis nous, notre vocation, c'est justement d'accueillir le plus possible d'archives, hein, donc en rapport, en principe, avec l'histoire du département, hein, pour, un, les conserver, et puis deux, les diffuser. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que ce livre aussi s'inscrit.
Et des personnes qu'on voit en photographie, là, est-ce que vous avez des traces? Parce qu'il y a plein de gens qui sont partis et qui sont malheureusement ont disparu rapidement. Est-ce que vous avez des témoignages de personnes qui ont connu ces gens-là?
C'est-à-dire
par rapport aux photos que vous avez?
On a les photos. Alors, le problème des photos, alors c'est vrai que autant un texte écrit, souvent, on a une date, vous voyez, un lieu, etc. Le problème des photos, c'est que souvent, on ne sait pas qui est sur la photo. Et quelquefois même, on ne sait même pas on ne sait pas évidemment quand ça a été fait, on ne sait pas où ça a été fait. Alors bon, là, on a pu identifier, hein, parce que la photo est identifiée dès le départ. Hein, donc, heureusement, ça arrive aussi. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Et donc, on a effectivement beaucoup de difficultés. Alors souvent, quand les personnes nous amènent des photos, je leur demande d'essayer de le plus possible de documenter, comme on dit, hein, l'ensemble pour qu'on puisse connaître. La personne qui m'a amené hier les photographies, en fait, avait très peu une vague idée de qui c'était, avant que je lui ai demandé de faire quelques recherches. Et on a eu du mal, d'ailleurs, elle connaissait que son nom, qui était un nom assez banal, donc pour retrouver quelqu'un, par exemple, dans les registres matricules qui sont en ligne, hein, sur les sites internet, retrouver quelqu'un juste avec son nom, quand c'est un nom très banal, c'est pas facile. Donc il fallait son prénom, on a réussi à trouver son prénom, mais le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à l'identifier formellement, et maintenant, il faut sa date de naissance, vous voyez. Donc c'est aussi, ça, c'est un des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, je dis toujours aux personnes, quand vous avez des tirages photographiques, écrivez derrière ce que c'est. Voilà. En revanche, sur les photos qui ont été faites par cette personne, sur l'arrière, donc au dos hein, du tirage papier, il a indiqué la date et le lieu, ce qui est quand même très très important. Alors, on n'a pas le détail de ce qui est représenté quand c'est des personnes, on ne sait pas qui c'est. Enfin, on voit des infirmières, on voit des soldats. Après, on peut arriver à comprendre de quoi il s'agit.
Oui, vous pouvez recouper par rapport à l'histoire.
Exactement. Voilà, on a cette capacité-là. Mais c'est quand même assez difficile. Mais on est très, très demandeur de photographie parce que, comme vous le savez, les archives, ce sont souvent des écrits, hein, que ce soit sur du papier, parchemin. Alors, on a certes ce qu'on appelle des fonds figurés, hein, des FI, qui sont des cartes postales, des toutes sortes de documents, en fait, hein, des littoraux, etc. Mais on manque fondamentalement quand même de fonds figurés, en particulier donc des photographies. Et la grande collecte a permis justement de ramener des photographies de la fin du 19e jusqu'à l'entre-deux-guerres. Vous voyez, donc des documents très, très intéressants. Il y a peu, durant cet été, là, j'ai justement aussi fait numériser par les archives départementales, donc par mon service, je crois qu'il y en avait 250, entre 250 et 300, des plaques de verre hein, qui nous avaient été proposé par un particulier hein, donc, et qui concernait l'avant-guerre, donc l'avant-première guerre mondiale, les mets, enfin les messes, hein, les mets, et d'autres Riez, etc., et d'autres lieux du département. Et au lieu que ces photos dorment, vous voyez, dans leur boîte, alors elles étaient dans une boîte pas très conforme aux règles de l'archivistique pour la conservation des documents, parce que c'est très fragile, en fait. C'était des plaques de verre stéréoscopiques. Hein. Donc, à la fois, d'ailleurs, des positifs et des négatifs. Et la personne qui nous a confié ces plaques pour prêt, hein, prêtées pour la numérisation, était très contente parce que, non seulement on a numérisé toutes les plaques, et ce qui lui permet ensuite de les regarder comme avec plus de facilité, et puis de les agrandir. Hein. C'est-à-dire que quand on voit une plaque comme ça, même quand on utilise les supports de l'époque hein, pour les regarder, pour avoir ces sensations de profondeur hein, grâce aux plaques stéréoscopiques, on ne voit pas tous les détails. Quand on est sur un ordinateur, évidemment, on peut agrandir très largement les clichés, on découvre des choses tout à fait intéressantes. Mais en plus, comme il y avait des négatifs, il n'avait jamais pu les voir. Et donc, le fait de les numériser et de les remettre en positif hein, par traitement informatique, et bien évidemment, ça lui a permis de découvrir des images qu'il n'avait pas. Donc, tout le monde est content. Lui, parce qu'il peut enfin regarder ces images qu'il ne connaissait pas. Il peut aussi les prêter, les diffuser. Hein, il peut les regarder même en détail. Et puis, nous, on est très contents parce qu'évidemment, ça nous permet d'avoir un fond photographique qu'on peut utiliser ensuite dans le cadre de nos activités.
Et ce travail était d'autant plus important, c'est que tous les prêts qu'on vous donnait, il fallait les répertorier
oui.
pour ne pas mélanger les photos oui. les unes avec les autres.
Oui, alors ça, c'est aussi une difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, le flux était important et on a eu beaucoup de mal à suivre aussi bien le flux papier, hein, j'allais dire, que le flux photographique. On avait quelquefois des personnes qui nous amenaient des centaines de photos et c'est vraiment c'est très compliqué. Alors, il faut penser aussi que tout n'a pas été traité. Enfin, hein, on a simplement regardé ce qui nous intéressait. Hein, on les a identifiés de manière globale. On connaît en général d'où elles viennent, de quoi il s'agit, hein, en gros. Mais maintenant, le travail, mais ça c'est un travail qui serait très très long, c'est de les identifier une à une. C'est-à-dire qu'en fait, de les prendre, et là c'est un travail de plusieurs années. Quoi. Donc c'est vraiment c'est une tâche. Vous savez, un archiviste, comme dans beaucoup de métiers, en fait, est toujours dans le rapport investissement-résultat. Vous voyez quelle est la quantité d'efforts que je dois faire pour obtenir tel résultat. Et si le résultat au bout du compte n'est pas très, très important et l'investissement trop lourd, eh bien, on ne le fait pas. En fait, hein. C'est vraiment, on est vraiment dans cette évaluation hein, de la quantité de travail qu'on doit faire par rapport évidemment au but à atteindre. Donc après, quand on est un puriste, on peut se faire plaisir hein, sur les petits fonds où là on fait vraiment tout jusqu'au bout, mais c'est très très long. Mais alors c'est bien parce que ça permet de nous entraîner, de rester un peu dans, le, dans notre cœur de métier qui est le classement, mais c'est très très difficile et on est quand même un petit peu submergé par la vague des archives.
Et de par votre expérience, vous arrivez à canaliser ceci en schématisant et en raccourcissant un maximum de temps, en disant ça va être réaliste si je m'en sers assez rapidement
la force de l'habitude, en fait, hein, effectivement, on arrive très vite à séparer le bon grain de l'olivret. C'est-à-dire, en fait, alors, tout est intéressant en réalité, hein, mais par rapport à la problématique qu'on se pose, vous savez, c'est toujours la question qu'on se pose qui dirige notre regard, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de telle chose, vous voyez, et bien on va chercher évidemment cette chose dans les fonds photographiques. Donc ça va très très vite, en fait. Il n'empêche que moi, très régulièrement, quand j'ai un petit peu de temps, ce qui m'arrive quand même aussi, je reprends les photographies.
Quand vous ne prenez pas de congé.
Voilà, quand je ne prends pas de congé, effectivement. Enfin, j'en prends assez peu. Et puis même pendant les congés, je fais ça. Donc, voilà. Mais, parce que c'est un plaisir, en fait. Hein. Donc je reprends un peu, vous savez, comme dans les familles, hein, on reprend les photos comme ça, on regarde dans les albums. Hein. Ben, moi, je fais exactement la même chose avec les photos qui sont... je ne regarde pas les albums de ma famille. En fait, je regarde les albums des autres.
Et c'est votre famille qui vous regarde travailler.
Voilà, exactement. Et ma famille me regarde travailler. Regardez les albums des autres. C'est un peu ça. Mais donc je regarde effectivement les photographies et je découvre évidemment toujours des choses parce que il y a effectivement la question qu'on se pose évidemment, hein, mais il y a aussi la photo elle-même et on a des fois des choses absolument... dans l'exemple que je vous donnais de cet été, on a un photographe qui est donc installé, qui fait un cliché chez un barbier, vous voyez. Donc, et alors il s'est installé de telle sorte qu'on le voit lui aussi dans la glace, en fait. Hein. Donc il a, en fait, on a le photographe photographié par lui-même, vous voyez. Et c'est des choses qu'au premier coup d'œil, on voit un barbier, vous voyez, qui travaille, et on ne fait pas tellement attention à ce qu'il y a dans le reflet qu'il y a dans la glace. Vous voyez. C'est après qu'on le voit, et comme on peut effectivement, comme le document a été numérisé, hein, là, on peut l'agrandir, et donc on voit vraiment, voilà, c'est un petit exemple, hein, mais il y en a plein comme ça, où on découvre, il y a quelques années, un étudiant travaillait sur les animaux domestiques. Alors c'est vrai que dans une photographie, souvent on ne fait pas attention aux animaux domestiques, vous voyez, aux petits chiens qui traînent, là, qui est sur la photo, en plus... Comme les temps d'exposition étaient un peu plus longs, des fois le chien a bougé, donc on ne le voit pas vraiment, il est un peu flou, vous voyez. Voilà, donc, et puis je me suis rendu compte, en fait, il m'avait posé la question, est-ce que vous avez des photographies avec des animaux domestiques, et en l'occurrence souvent des chiens. Et je me suis aperçu qu'en fait, effectivement, il y avait souvent des animaux comme ça qui étaient sur... voilà, oui, c'est des... La question fait qu'évidemment, on regarde autrement l'image, et donc c'est toujours comme ça, hein. C'est pareil pour les écrits, c'est exactement le même principe.
À propos d'images, à propos des gens qui regardent les autres, vous avez mené un disque.
Oui, 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 effectivement, j'ai amené donc un disque qui est Big Brother, donc hein, de Lavilliers. Alors, c'est un disque de la fin des années 70, si mes souvenirs sont bons, hein, que j'ai écouté...
77.
Oui. 77, hein, c'est ça. Que j'ai écouté, effectivement, dans les années 79, 80... Il m'a laissé de bons souvenirs que j'écoute de temps en temps encore avec plaisir. Donc là, c'est une version CD. Hein, à l'époque, c'était la version vinyle, évidemment, hein, qui quand même offrait plus de plaisir, parce qu'on n'a pas exactement le même son. Mais j'écoute toujours. Et au fond, je me dis que cette chanson, hein, qui est quand même très particulière, c'est dans l'album Clinton Brown, finalement, on reprend un petit peu les thématiques. Hein, Big Brother, alors je ne suis pas sûr qu'il y ait un Big Brother, hein, quelqu'un qui nous regarde, mais en fait, il n'empêche qu'on est tous regardés. Parce que ça aussi, c'est une constante. Quand on cherche quelque chose, y compris quelque chose d'ancien, Internet est un outil formidable. On trouve beaucoup, beaucoup d'informations sur les personnes qui ont vécu il y a plusieurs dizaines d'années. On arrive même quelquefois à retracer des itinéraires. Hein, même et je ne parle pas des personnes célèbres, hein, je parle des personnes ordinaires. Donc ce qui est vrai pour nous aujourd'hui en tant que contemporains, l'est aussi un petit peu pour les personnes qui ont vécu il y a déjà bien, bien longtemps.
bateaux panaméens, marchands d'armes français, tueurs américains, matériel japonais, capitaux catholiques, call girl asiatique. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. Dans les dents, les paupières brûlées, voyageurs du serpent, des déserts cendrés, les prisons sont fertiles et la vie si fragile. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. La CIA surveille le magot, il y a le KGB qui fait ton numéro. Et si tu leur fais face, ils te tireront dans le dos. Big Brother, no good. It's watching you. Big Brother, no good. It's watching you. On se balade dans de petits lingots, de New York à Lausanne en passant par Rio. Et tu verses à l'épargne et tu verses à l'impôt. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. Camarade, ça vient d'être un délit. Fais ton autocritique sur ton crâne poli. Inscris ton matricule, numéro du zombie. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. Big Brother te regarde son œil de plâtre. Parano et livide, décervelé, noirâtre. On arrive bientôt, 1984. Big Brother, no good. He's watching you. Big Brother, he's watching you. Je t'aime au plus profond, au-dessus des salauds. Et aurais-je le temps de trouver mon îlot avant que dans le ciel ne revienne à nouveau. Big Brother is watching you. 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 Big Brother is watching you.
Alors Jean-Christophe Labadie, pour la seconde partie de cette, votre émission Histoire d'Archives, vous voulez parler de ce qui va se passer?
Oui, voilà, de l'exposition donc, qui a été inaugurée donc, la semaine dernière, qui est donc une proposition hein, du service éducatif. Hein, ce sont donc les deux agents, Lucie Chélan et Bérangère Suzoni, qui ont eu l'idée hein, de cette exposition, qui l'ont d'ailleurs réalisée. Et qui consiste en fait à mettre en parallèle une photographie ancienne d'un lieu avec une photographie prise aujourd'hui du même lieu, avec évidemment le même cadrage, le même angle et le même cadrage. Hein. C'est le principe de ce qu'on appelle la photolalie, hein, ce qui est un principe qui est utilisé d'ailleurs, y compris dans les sciences, par exemple, pour voir l'évolution des glaciers. Hein. On se met au même endroit, on photographie à plusieurs périodes différentes pour voir ce qu'il en est. C'est un procédé d'ailleurs qui a existé dès la création, dès l'invention de la photographie. Hein, je pense par exemple au photographe Saint-Marcel et Séric, enfin photographe, au Sisteronnet Saint-Marcel et Séric, qui faisait de la photographie pour son plaisir, eh bien montait régulièrement au-dessus de Sisteron pour faire une photo. Et voir justement l'évolution du paysage, hein, avec quasiment le même angle. Hein, et le même cadrage. Voilà, donc c'est un procédé qu'on a utilisé, hein, enfin que ces deux agents ont utilisé pour justement montrer un petit peu les évolutions. Et c'est intéressant. Alors, Ça concerne pas tout le département, parce que c'était un peu difficile, parce que d'abord, il faut avoir des photos anciennes. Donc déjà, la limite, elle est là. Vous ne pouvez pas créer, évidemment, ce qui n'existe pas.
Il faut avoir une base.
Donc il faut avoir une base. Et donc la base, c'était souvent des photographies qui ont été utilisées, qui ont été reproduites dans le cadre des cartes postales. On a cette mode des cartes postales au début du XXe siècle, qui est très très importante, et qui souvent montre des lieux, donc tel village, etc. Alors donc déjà, tous les villages, tous les lieux habités n'étaient pas, n'ont pas donné lieu à des cartes postales. Donc déjà, il y avait cette limite-là. Après, on avait des fonds photographiques privés, comme celui de Saint-Marcel-et-Céric, qui permettait aussi d'ouvrir un petit peu... à des lieux qu'on n'avait pas forcément, avec des photos qui sont plus anciennes, puisqu'elles datent des années 1860 jusqu'aux années 1890. Voilà. Et puis, le jeu, c'était d'aller sur place ensuite. Donc, après avoir sélectionné... Alors, je crois qu'ils en ont sélectionné quasiment... on en a retenu environ 180 clichés. Mais je crois que c'était trois fois plus au départ. Et donc, elles sont parties sur les routes des Alpes de Provence pour aller elles-mêmes ou avec Jean-Marc Delaye, qui est le photographe du service, faire des photographies. Et puis ensuite, après, les ramener. Alors, la première chose, ça a été d'abord de savoir lesquelles on allait mettre. Parce qu'on avait les photos anciennes. Alors, quelquefois, on les a éliminées parce qu'elles n'étaient pas de très bonne qualité. Les cartes postales étaient un peu fatiguées, usées. Des fois, les procédés n'étaient pas... C'était pas de la belle impression. Donc déjà, on a pu éliminer celle-ci, mais le vrai critère, en fait, c'était aujourd'hui. En fait, on a éliminé beaucoup d'images. Je l'ai fait, moi, j'en ai éliminé à peu près la moitié, en enlevant tout simplement les clichés où il y avait des voitures. En fait, on s'est rendu compte, la grande difficulté, c'est que le photographe, autrefois, quand il faisait sa photo, il en faisait d'abord très peu, et puis c'était des photos posées, vous savez, travaillées. Il avait comme le choix de son lieu, le choix du moment, etc. Et donc, il allait à un endroit. Il demandait même aux habitants de poser pour la photo. Donc, vous avez quelquefois des enfants, des femmes, des hommes qui sont là, qui posent, vraiment.
Il fallait qu'ils soient patients parce qu'à l'époque,
Et voilà. Et puis, il allait moins vite que nous quand il était placé, etc. Oui. Donc, il avait vraiment le choix, quoi. Là, en l'occurrence, quand les agences sont parties, d'abord, elles y allaient la semaine. Souvent, les villages sont déserts la semaine. Il n'y a pas grand monde qui habite. Et puis, il y a le deuxième problème, c'est les voitures. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez beaucoup d'endroits où, dans les villages, les voitures sont stationnées. Et vous avez une église qui a été photographiée il y a un siècle. Vous pouvez vous faire la même photo, sauf que devant, il y a deux ou trois voitures. Et donc déjà, ça a été vraiment... c'était le critère principal pour la sélection.
Et la problématique des câbles électriques, comment
vous... Oui, alors, il y a aussi ça, mais... C'était moins embêtant parce que, quand même, en général, les images qui étaient faites, c'était souvent sur des lieux un peu caractéristiques, vous voyez, un lavoir, une église, etc., ou un monument. Donc, du coup, en général, on n'est pas trop perturbé par ça, ou la maison où a dormi Napoléon, Napoléon donc à Barème, vous voyez, etc. On n'était pas trop gêné par ça. Quelquefois même, d'ailleurs, sur les potentiels, il y a des câbles électriques qui ont disparu depuis parce que ça a été enterré, vous voyez, donc c'est pas trop le problème. Non, le deuxième problème, c'était la végétation. Car à l'endroit où vous allez, alors la végétation ou l'urbanisme, à l'endroit où vous allez, soit on a construit des maisons et vous pouvez plus vous placer à l'endroit où le photographe s'était placé, donc du coup vous êtes obligé un peu de vous décaler. Et puis le deuxième, c'est la végétation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des arbres qui ont poussé. Et donc, vous empêchez de prendre la photo. D'autant que, je rappelle, la couverture végétale était moins importante autrefois qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'autrefois, vous savez, on est vraiment ce qu'on appelait le service de la restauration des terres en montagne, qui a procédé au reboisement du département, c'est parce que justement, il n'y avait plus d'arbres. Donc, vous avez des photos où vous reconstatez que, effectivement, par rapport à des photos aujourd'hui, la couverture végétale n'a rien à voir. Autrefois, il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, vous avez vraiment une très, très importante végétation. Et puis cette végétation, quelquefois, elle est juste à l'endroit où vous voulez faire la photo. Et donc, du coup, ça vous empêche de faire le cliché. Donc, ce qui fait que quand elle partait, elle n'était pas sûre. Même en ayant repéré un bel endroit, elle n'était pas sûre de pouvoir faire la photo. Parce que quand elles arrivaient, soit il y avait des voitures, vous voyez, soit il y avait des maisons, soit la route avait été modifiée, soit il y avait des arbres. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Mais quand même, globalement, on a réussi à faire quand même... elles ont réussi à faire des clichés, ce qui a permis donc de faire cette exposition. Voilà. Donc là, je regardais les jours derniers, les gens viennent, vraiment. Alors c'est intéressant parce que souvent, ce sont des gens qui connaissent les lieux. Donc ils découvrent, ils voient le lieu tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'ils le connaissent, et puis ils voient comment il était avant. Et quelquefois, il y a des évolutions qui sont intéressantes. Enfin, hein, c'est vraiment, surtout quand vous êtes du lieu même, hein, du coin, vous voyez en fait quel était votre environnement il y a un siècle.
Ça réveille un peu les mémoires.
Exactement, ça réveille des mémoires, ça donne un peu... vous savez, je pense que c'est important pour les personnes de prendre conscience justement de l'épaisseur historique du lieu où on habite. Hein, un lieu, c'est un passé, vous voyez, c'est aussi le résultat d'une histoire. Et c'est je prends un exemple. À Aiglun, vous avez par exemple une ancienne école qui est devenue une maison d'habitation. Vous voyez, bah, c'est intéressant pour les personnes qui habitent cette maison, j'imagine, vous voyez, de voir qu'en fait, autrefois, sur la photographie, il y a la petite école, c'est un petit bâtiment, avec les enfants autour, vous voyez, la cour de récréation. Vous voyez, et quand on regarde la photo, il y a finalement peu de changements. Hein, vous voyez, la bâtisse reste la même. Vous voyez, c'est vraiment, je pense, émouvant. Et puis ça rappelle quelle était la vocation initiale de l'endroit où on habite. À Sisteron, les deux agentes ont eu beaucoup de mal à trouver, par exemple, l'ancien. Alors c'est une photographie qui était en fait l'ancienne gendarmerie, tribunal de première instance et prison. Hein, tout ça à la fois. Eh bien, le lieu a tellement changé que ce sont les policiers municipaux qui les ont orientés parce qu'elles n'arrivaient pas à trouver, vous voyez. Mais quand vous regardez, les formes sont les mêmes. En revanche, le bâtiment a totalement été transformé puisque c'est devenu, je crois, un bâtiment administratif d'un côté et puis une maison d'habitation de l'autre. Enfin, ça a été, oui, transformé en habitation de l'autre côté. Vous voyez, c'est vraiment pour vous dire que les choses quelquefois ne changent pas. Vous prenez la maison de Napoléon à Barème, où Napoléon a dormi à Barème, hein, qui était celle du juge de paix à l'époque. Il n'y a aucune modification. Hein. Les volets sont quasiment les mêmes par rapport à la photographie. Hein. Ça a peut-être dû changer entre le moment où, en 1815, Napoléon avait dormi et le moment où on avait pris le cliché, hein, quand même. Mais la maison, en tant que telle, n'a pas changé. Les fenêtres sont les mêmes, les volets sont les mêmes, l'enduit est le même. Il y a juste le fil électrique qui a été enlevé, hein, par rapport à l'ancienne photo. Et puis des boîtes aux lettres ont été ajoutées, voilà, hein, par rapport à la boîte aux lettres qui existait auparavant. Voilà, mais c'est tout.
Et les bâtiments peuvent changer s'ils sont ribolinés.
Alors oui, quelquefois, des fois ils sont, c'est curieux parce que des fois on les voit mieux aujourd'hui qu'autrefois, mais pas pour les bonnes raisons. C'est parce que l'enduit est parti. Donc on voit la structure de la maison, ce qui la rend plus intéressante parce que du coup on voit ces formes d'origine, vous voyez, hein, sa construction d'origine, hein, son appareillage. Mais voilà. Après, l'idée suivante, parce que cette exposition n'est pas accompagné de texte, hein, c'est juste des images. L'idée suivante, c'est de faire une publication. Donc de reprendre la plupart, peut-être tous les clichés, de garder l'idée de la comparaison, mais de raconter une histoire, hein, pour justement donner un peu de matière. Et donc je suis en train de... J'ai commencé de mon côté, parce qu'on travaille tous un peu de conserve, en fait, hein, en parallèle. J'ai commencé un petit peu à travailler, et c'est assez drôle, parce que j'ai commencé par la lettre A, hein, donc tout simplement, parce qu'on a classé par ordre alphabétique, hein, tout simplement, hein, pour des questions de simplicité, pour que les gens, quand ils viennent, puissent trouver facilement le lieu qui les intéresse. Au départ, on avait l'idée peut-être de faire des itinéraires, vous savez. Hein, voilà, donc on a pris par ordre alphabétique. Donc j'ai commencé par la lettre A et j'en suis à la lettre B, en fait. Hein, donc je travaillais par exemple sur la tour Cardinalis à Barcelonnette. J'ai découvert en consultant les dossiers des monuments historiques, hein, que nous détenons aux archives départementales, qu'on avait eu l'idée même de la détruire, vous voyez, de la démolir, même si on savait qu'à l'époque, ça aurait choqué la population. Mais elle était dans tellement mauvais état qu'elle avait été classée au titre des monuments historiques, et puis ça coûtait tellement cher pour la réparer et pour l'intérêt supposé, hein, pour l'administration des Beaux-Arts, hein, qui gérait ces questions à l'époque à Paris, qui était installée au Palais Royal, et bien ça, l'investissement était tel, vous voyez, toujours, hein, la question de l'investissement par rapport au résultat, par rapport à l'intérêt relatif, selon l'administration des Beaux-Arts, du monument, que en fait on l'avait déclassé. Donc elle avait perdu son classement au titre des monuments historiques et au grand dam, évidemment, de la population et des élites locales, qui avaient réussi à la faire reclasser. Parce qu'en la classant, ça permettait d'avoir des aides, évidemment, hein, du ministère pour la restaurer. Mais elle était en très, très mauvais état. Ouais, donc on avait vraiment l'idée de la restaurer. Là, ce matin, avant de venir, je consultais le dossier Alos, hein, sur l'église paroissiale, où là aussi, elle était en mauvais état et elle avait été... Alors, la tour Cardinalis avait été victime au moment du déclassement du tremblement de terre, d'un tremblement de terre, ce qui fait que ça l'avait beaucoup ébranlé. Elle était déjà en mauvais état. Il y a eu des travaux qui avaient été faits en 1840, mais là, pour le coup, c'est les années 1880. Donc, pour le coup, elle était vraiment en très mauvais état. Et bien là, à Loos, l'église, elle a été victime, en fait, d'un ouragan, entre guillemets, hein, qui avait entraîné le débordement des cours d'eau et qui avait donc totalement raviné la base de l'église et l'avait fragilisée, à tel point que d'ailleurs on se demandait si elle n'allait pas s'effondrer. Vous voyez, donc voilà, le but c'est de raconter toutes ces histoires. Hein. Je pourrais vous en raconter d'autres, hein, sur Anot, parce que j'ai travaillé aussi sur ce village, sur ce bourg, sur le Lavoir, hein, qui était un lieu très important de sociabilité. Vous voyez, donc on va essayer à la fois de reprendre soit c'est des monuments historiques comme la tour Cardinalis, ou l'église paroissiale d'Alos, avec des dossiers qui concernent plutôt les monuments historiques, mais en rappelant, le but n'est pas d'expliquer les restaurations, hein, c'est pas très intéressant en soi pour le sujet qui nous intéresse, mais de reprendre des histoires, hein, qui ont de l'événementiel en fait, hein, dont ces monuments étaient victimes. Tremblement de terre d'un côté, ouragan entre guillemets, hein, c'est le terme qu'ils employaient à l'époque, à tel point que Le bâtiment est tellement abîmé que évidemment, on écrit, hein, pour justement, parce qu'on n'a pas l'argent. Et ceux qui écrivent, alors c'est une lettre qui est plus ancienne, à propos justement de la restauration, qui écrivent que Alos, c'est un village qui est pauvre parmi les pauvres. Vous voyez, donc on est toujours en fait à la recherche d'argent. Hein, c'est vraiment, et on voit les interventions des députés, etc., enfin, voilà, de diverses personnes, du préfet aussi, hein, pour justement appuyer les dossiers. Voilà, donc le but n'est pas de raconter cette histoire administrative, hein, c'est vraiment de reprendre un petit peu l'événementiel. Voilà.
Et pour les clichés pris à un moment donné, pris maintenant, c'est visible quand ?
Alors, cette exposition, effectivement, elle est visible jusqu'en mars. Donc, elle a ouvert donc la semaine dernière et on peut venir la consulter aux archives départementales jusqu'en mars. Je rappelle nos horaires, hein, nous sommes ouverts du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Non-stop, hein, donc et on peut venir effectivement voir cette exposition. Je rappelle aussi qu'on a une deuxième exposition actuellement, hein, qui est aussi donc à la cathédrale Saint-Jérôme, hein, que nous avons inaugurée début juillet, qui s'appelle Sur les pas de l'évêque au XVIIe siècle, hein, qui concerne en fait dont la base est constituée des visites pastorales de l'évêque de l'époque. Et l'idée de l'exposition, c'est de montrer des objets, hein, tableaux, objets du culte, qui ont été touchés et vus par l'évêque lors de cette visite pastorale. Voilà, donc cette exposition, comme chaque année, remporte un franc succès, puisque les personnes viennent pour visiter la cathédrale d'abord, et puis on a ce qu'on appelle un effet d'aubaine, hein, qui fait que les personnes rentrent aussi dans le petit lieu, c'est dans une chapelle, hein, dans le latéral, où est installée l'exposition pour voir effectivement ces objets qui appartiennent donc au patrimoine des communes, hein, que ces communes nous ont objectivement prêté, hein, pour justement les montrer aux visiteurs qui sont pour le moment souvent des gens qui viennent à Digne pour des cures. Voilà. Donc on a beaucoup de curistes en ce moment.
Et il y a aussi l'exposition 17-18 Victoires, c'est jusqu'à la fin de l'année.
Exactement. Donc ça continue. On est dans le projet, donc le projet qui aura évidemment son point d'orgue autour du 11 novembre, évidemment, mais on va effectivement la proposer jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à notre fermeture, en fait, hein, en janvier. Mais on a aussi beaucoup de... Mais on en reparlera une autre fois. Beaucoup de projets autour, justement, de la fin du centenaire de la Première Guerre mondiale, avec des projets de conférences et même de représentation théâtrale, hein, par une compagnie parisienne. Hein, donc voilà, mais on aura l'occasion d'en reparler.
Prochaine émission d'Histoire d'Archives, ça sera le 18 octobre prochain, troisième jeudi d'octobre.
Très bien, bah écoutez, rendez-vous donc au 18.
Merci Jean-Christophe.
Merci Jean-Marc.